Chapitre 21. Comment le vaillant chevalier de la Manche imita le beau ténébreux. Notre héros s'enfonça dans le plus fort de la montagne. Sancho, qui le suivait en soupirant, mourait d'envie de parler, mais n'osait commencer la conversation. Enfin, ne pouvant plus soutenir un si long silence, « Monsieur, dit-il, je vous demande en grâce de vouloir me donner votre bénédiction et me permettre de retourner chez moi. Là, je pourrais du moins causer avec ma femme et mes enfants. J'aimerais autant être enterré vif que de suivre votre seigneurie sans pouvoir dire un pauvre petit mot. Par ma foi, il est trop dur de chercher les aventures, d'être berné, d'être assommé, sans pouvoir desserrer les dents. Eh bien, répondit Don Quichotte, je consens à lever la défense que je t'ai faite, mais seulement pour le temps que nous serons dans ces montagnes. À la bonne heure, monsieur. Sans cela, j'allais étouffer.
Ayez d'abord la bonté de m'apprendre quel si grand intérêt vous prenez à cette reine Marcassine. Je ne dis peut-être pas bien son nom, mais c'est égal. Et que vous importe qu'elle fût ou non d'une vertu parfaite. Si votre seigneurie avait passé cela, qui devait lui être fort égal, le fou aurait continué son histoire, et nous aurions évité le coup de pierre et les gourmades. Mon ami, si tu savais combien la reine Madazim mérite de vénération, tu trouverais toi-même que j'ai fait preuve de patience en ne châtiant pas le blasphémateur qui osait ternir sa renommée. Cardenio ne l'aurait pas calomnié s'il n'eût été dans son accès de folie. Mais voilà justement la raison qui devait vous empêcher de prendre garde à ce que disait un fou. Car enfin, si la grosse pierre qu'il vous a jetée à la poitrine était arrivée plus haut et vous avait frappé la tête, où en seriez-vous, s'il vous plaît, avec cette belle madame, que Dieu confonde? Un chevalier errant est obligé de soutenir l'honneur des belles contre les fous et contre les sages, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande reine comme Madazine, pour laquelle je ne cache point que j'eus toujours une affection particulière, fondée sur sa beauté, ses vertus et ses malheurs. Et l'on osera dire qu'elle n'était pas d'une vertu parfaite? Non, par Dieu, je ne le souffrirai pas. J'en donnerai le plus terrible démenti à tous ceux qui diront et le penseront. Monsieur, ce n'est pas moi qui le dis ou qui le pense. Oh, mon Dieu, je laisse chacun se mêler de ses affaires. Je viens de mes vignes et j'ignore tout. Qui se sent galeux se gratte. Celui qui achète cher et dit que c'est bon marché ne le sent pas moins à sa bourse. De qui n'a-t-on pas médit? Qui pourrait fermer les champs? Bonté divine, s'écria Don Quichotte. Et à quoi peut revenir cette enfilade de proverbes? Je te pardonne volontiers de n'avoir pas le sens commun, mais tu devrais une bonne fois te mettre dans la tête que tout ce que je fais et ferai se trouve toujours conforme aux règles de la chevalerie que personne au monde ne connaît mieux que moi. Toutes mes actions ont un but. Par exemple, dans ce moment, je ne m'enfonce dans ces déserts que pour exécuter un projet ultime, qui seul doit m'acquérir plus de gloire que n'en ont jamais obtenu les chevaliers les plus renommés. Dans ce projet-là, monsieur, courez-vous de grands dangers? Cela dépendra de ta vigilance et du plus ou moins de temps que tu mettras à l'ambassade dont je prétends t'honorer. Approche, tu vas tout savoir. Tu n'ignores pas, mon ami, que le fameux Amadis de Gaulle fut peut-être le plus parfait des chevaliers errants du monde. J'ai tort de dire, peut-être, il fut le premier, l'unique, le prince de ceux qui ont existé. Une des plus belles actions d'Amadis, celle qui prouva le mieux son courage et sa constance, ce fut, quand il eut le malheur de déplaire à la belle Oriane, de se retirer sur la roche pauvre, où il vécut longtemps dans la pénitence sous le nom significatif de Beau Ténébreux. Il m'est plus facile d'imiter cette pénitence du grand Amadis que de fendre comme lui des géants, de tuer des andriaques, de mettre en fuite des armées. Aussi vais-je profiter pour cela de l'heureuse occasion qui m'amène dans un désert aussi commode que celui-ci. « Je ne vous comprends pas bien, » reprit Sancho. « Qu'est-ce donc que vous voulez faire ?» Imiter Amadis et peut-être Roland, qui, en apprenant qu'Angélique l'avait oublié, arracha les arbres, troubla les fontaines, tua les troupeaux, mit le feu aux maisons et devint tout à fait fou, ce qui lui fit beaucoup d'honneur. Mais vous avez dit, ce me semble, que ces deux messieurs avaient des raisons pour faire ces belles choses. Je ne vois pas que vous en ayez. Soupçonnez-vous que Madame Dulcinée vous ait oublié ? Non, et voilà justement en quoi j'aurais bien plus de mérite. Qu'un chevalier devienne fou pour un motif raisonnable, on ne peut guère lui en savoir gré. Mais qu'à propos de rien, sans le moindre sujet, la tête lui tourne tout d'un coup, tu sens, mon ami, combien c'est glorieux et agréable pour sa dame, qui juge par là de ce qu'il saurait faire dans une véritable occasion. D'ailleurs, la seule absence de Dulcinée est un suffisant prétexte. C'en est fait, Sancho, je suis fou. Oui, mon cher enfant, je veux être fou, et je le saurai, jusqu'à la réponse d'une lettre que tu vas porter de ma part à Madame Dulcinée. Si cette réponse est telle que mon amour la mérite, je reprendrai ma raison pour mieux sentir ma félicité. Si la cruelle me dédaigne, je garderai mon délire pour diminuer ma douleur. Tu vois que dans tous les cas l'affaire est excellente et que je ne peux qu'y gagner. » En parlant ainsi, Don Quichotte se trouvait au pied d'une haute montagne qui, séparée des autres, s'élevait seule dans une prairie arrosée par un ruisseau. La fraîcheur de l'eau courante, la beauté de la verdure émaillée de fleurs sauvages, quelques bouquets d'arbres plantés çà et là, engagèrent notre chevalier à choisir cet agréable endroit pour y faire sa pénitence. « Le voici, s'écria-t-il en promenant des yeux attendris sur tous les objets qu'il apercevait, le voici l'asile solitaire où je veux soupirer mes amours. Le voilà le ruisseau limpide dont mes larmes augmenteront les flots. Ô vous, qui que vous soyez, rustique dieu de ces montagnes, pardonnez à un malheureux de troubler par ces tristes plaintes vos belles retraites. Ô Dulcinée du Toboso, jour de mes nuits, aimant de mon cœur, étoile brillante de mes longs voyages, regarde l'état affreux où ton absence me réduit. Et toi, mon fidèle écuyer, toi, le compagnon de ma gloire, n'oublie rien de ce que tu vas me voir faire afin de le raconter à celle qui cause mes maux. » Don Quichotte, à ces paroles, descend de cheval, ôte la bride et selle à Rocinante. Et le frappant de la main sur la croupe, « Reçois, dit-il, cette liberté dont ton maître ne jouit pas. Je ne retiens plus ton ardeur, coursier aussi doux que terrible, toi qui portes écrit sur ton front que tu surpasses en légèreté et le renommé Frontin et l'hippogriffe d'Altof. » Si mon pauvre âne était encore à moi, interrompit alors Sancho, j'aurais en lui ôtant son bas d'assez belles choses à lui dire, quoique dans le fait il n'eût rien à voir à ceci. Mais au surplus, seigneur chevalier de la triste figure, si vous êtes fou tout de bon, et que vous vouliez que je parte, Rocinante pourrait fort bien suppléer au défaut de mon âne. J'irai et reviendrai plus vite, car je suis un fort mauvais piéton. Je ne m'y oppose point, répond Don Quichotte. Je désire seulement que tu ne te mettes en route que dans 3 jours. Afin que tu puisses voir et raconter à Dulcinée toutes les folies que je sais faire quand je m'y mets. Oh, monsieur, j'en ai assez vu. Tu n'y es pas, mon pauvre ami. Je vais d'abord déchirer mes vêtements, jeter çà et là mes armes, me précipiter la tête première sur les rochers. Ensuite, prenez-y garde, je vois ici tel rocher qui finira sur le champ votre pénitence. Écoutez. S'il est absolument nécessaire que vous fassiez de pareilles culbutes, je serais d'avis que ce fût dans l'eau ou sur du sable doux comme coton, et rapportez-vous-en à moi pour dire ensuite à madame que c'était contre des rochers plus durs que du diamant. Non, Sancho, les lois de la chevalerie ne permettent point ces mensonges. Oh bien, je me les permets, et croyez-moi, monsieur, imaginez que les 3 jours sont passés. Écrivez promptement à madame, sans oublier la lettre de change des 3 annons que vous m'avez promis. Donnez-moi le tout. Je cours ventre à terre au Toboso. Je parle à madame Dulcinée, je lui raconte des merveilles de votre pénitence, je vous la rends plus souple qu'un gant, et je reviens, léger comme un oiseau, tirer votre seigneurie de son purgatoire. Je n'ai pas ici de papier, mais je vais écrire ma lettre sur les tablettes de Cardenio. Tu la feras transcrire au premier village par le maître d'école ou le sacristain. Peu importe qu'elle soit d'une autre main que la mienne. D'abord, autant qu'il m'en souvient, Dulcinée ne sait pas lire. Ensuite, je puis te répondre qu'elle ne connaît pas mon écriture. Depuis 12 ans qu'elle m'est plus chère que la lumière des cieux, je ne l'ai pas vue 4 fois, et j'ose assurer que, de ces 4 fois, elle ne s'est pas aperçue, une seule, que je l'ai regardée, tant est sévère la retenue dans laquelle l'ont élevée Laurent Corchuelo, son père, et sa mère, Aldonza Nogales. « Comment ? Que dites-vous donc, monsieur ?»« Quoi ? Madame Dulcinée ? Et Aldonza Lorenzo ? La fille de Roland Corchuelo ? Oui, sans doute. Oh, je la connais parfaitement. Diable, c'est un fier brin de fille qui vous jette une barre aussi bien que le plus fort garçon du village. Vive Dieu, c'est une gaillarde qui a de la barbe et qui pourrait faire le coup de poing avec tous les chevaliers errants de la terre. Je me souviens que c'est un jour, elle monta au haut du clocher pour appeler des ouvriers de son père qui travaillaient à une demi-lieue de là. Ils entendirent sa voix comme s'ils avaient été à une toise. « Il me tarde déjà d'être en route. Je serai charmée de la revoir. Je la trouverai sûrement un peu noire, car elle est toujours au soleil. Mais que j'étais donc imbécile, j'imaginais que cette Madame Dulcinée était une grande princesse dont vous étiez amoureux et qui méritait de voir à ses pieds le Biscayen, les Galériens, tous autres que vous avez vaincus. Pardi, monsieur, s'ils y ont été, ils ont dû trouver Aldonzo Lorenzo taillant du chanvre ou battant du blé. Cela doit leur avoir paru drôle. Et je crois qu'elle en a bien ri. Sancho, reprit Don Quichotte d'une voix calme mais sévère, je vous ai déjà dit une grande vérité, que vous perdez trop souvent de vue. C'est que vous êtes un sot excessivement babillard. Quand on se mêle comme vous de faire le raisonneur, on devrait savoir que 2 choses seules méritent de nous l'amour, la sagesse et la beauté. Dulcinée les possède au plus haut degré. Qu'importe sa naissance et son rang, je la respecte, je la chéris autant que si elle était la première princesse du monde. » Don Quichotte s'éloigna de quelques pas, tira les tablettes de Cardenio et fit sa lettre pour Dulcinée. Lorsqu'il l'eut achevée, il appela son écuyer afin qu'il la prît par cœur. « N'espérez point cela, lui répondit Sancho, j'ai une trop mauvaise mémoire. Mais lisez-moi toujours cette lettre pour ma seule satisfaction, parce que je suis sûr qu'elle est bonne. » Don Quichotte lut la lettre. « Par la vie de mon père, s'écria Sancho, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Pardi, monsieur, comme vous savez dire tout ce que vous voulez, vous êtes un diable pour l'esprit. Ah, ça, n'oubliez pas à présent d'écrire sur une autre feuille la lettre de change des 3 anons, et signez-la de manière moins gentille, mais plus claire. » Don Quichotte écrivit aussitôt la lettre de change. « C'est à merveille, dit Sancho. Mettez là votre paraphe, et je vais sceller Rocinante. « Attends, attends, reprit Don Quichotte. Je désire qu'au moins tu me vois tout nu. Et je ne te demande que quelques minutes pour faire devant moi une 12aine de folies dont tu pourras parler comme témoin. Oh non, monsieur, je vous en prie, que je ne vous vois pas tout nu. Je serai sûre de me mettre à pleurer. Et j'ai déjà tant pleuré mon âne que mes pauvres yeux n'y pourraient suffire. Laissez-moi partir. J'en serai plus tôt de retour et je vous promets de vous rapporter une réponse favorable. Mais à propos, de quoi vivrez-vous jusqu'à mon retour ? Ne t'en inquiète point, Sancho. L'herbe de ces prés, les fruits de ces arbres suffiront à ma nourriture. J'espère même ne rien manger du tout, ce qui serait encore mieux. Je suis plus occupé de la crainte que tu ne puisses pas me retrouver dans ces déserts, et je te conseille, pour ne pas te perdre, de couper des branches de genêt que tu sèmeras sur la route jusqu'à l'entrée des montagnes. Elles te guideront quand tu reviendras. Sancho approuva cet expédient. Il se munit d'un faisceau de genêt, demanda la bénédiction de son maître, et montant sur Rocinante, dont notre chevalier lui recommanda de prendre les plus grands soins, il se mit aussitôt en route. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il revint précipitamment. « Vous aviez raison, dit-il. Je pense qu'il est nécessaire que je voie quelques-unes de vos folies pour les affirmer par serment en sûreté de conscience. » Don Quichotte, qui ne demandait pas mieux, se déshabilla dans l'instant, et fit ensuite 2 sauts en l'air avec 2 culbutes, la tête en bas. Sancho n'en voulut pas voir davantage. Il tourna bride en fermant les yeux et reprit vite son chemin.